Bonjour. Alors, le but premier de cette recherche était de s'intéresser essentiellement aux dimensions didactiques de l'enseignement de la lecture et l'écriture. Mais néanmoins, en même temps, nous avons souhaité nous intéresser aussi à des dimensions pédagogiques que plusieurs autres travaux de recherche antérieurs nous invitaient à prendre en compte dans le cadre de ce questionnement sur l'efficacité des pratiques. Alors nous avons ainsi choisi d'observer la capacité des enseignants à créer un climat de classe positif, à engager les élèves dans la tâche et à aider leurs élèves ainsi qu'à différencier. Alors, notre travail sur le climat et l'engagement répondait à un double objectif. Il s'agissait tout d'abord, dans un premier temps, d'explorer le lien entre climat et engagement, d'une part, et progrès des élèves, de l'autre. Alors, d'une manière générale, on sait que les élèves apprennent mieux dans un climat de classe positif. D'une manière générale, on sait également que les élèves apprennent mieux s'ils sont maintenus engagés dans la tâche, attentifs, pendant une longue période. Mais ce que nous souhaitons savoir ici, dans le cadre de cette recherche, c'est dans quelle mesure ces variables-là jouent un rôle aussi dans les acquisitions des élèves en lecture-écriture au CP. Second objectif de cette étude du climat, de l'engagement et de la différenciation, c'était également de contrôler nos résultats. Alors pourquoi contrôler nos résultats ? Alors, en effet, notre recherche repose sur la mesure du temps offert à l'enseignant. Or, on peut concevoir que dans certains cas, tout ce temps offert par l'enseignant ne soit pas complètement exploité. Pourquoi ? Parce que les élèves ne sont pas attentifs, ou alors parce que les élèves ne sont pas engagés, parce qu'ils sont dissipés, etc. Le temps offert par le maître peut alors être différent du temps de travail effectif de l'élève. C'est pourquoi nous avons voulu recueillir ces renseignements sur le climat et l'engagement afin de constituer des variables de contrôle. Alors, comment mesurer le climat et l'engagement ? Nous avons utilisé pour cela un outil américain qui s'appelle CLASS, l'acronyme qui signifie Classroom Assessment Scoring System de Pianta et Laparo. Et de cet item américain, nous avons extrait 14 items que nous avons librement adaptés. Concrètement, lorsque nos 140 enquêteurs étaient dans les classes, après 2 heures d'enseignement de la lecture et de l'écriture, ils avaient une grille à remplir avec ces 14 items pour lesquels ils devaient sélectionner des modalités. Alors comment avons-nous, par exemple, dans les classes de cette étude, mesuré le climat ? Alors, pour mesurer le climat, nous nous sommes intéressés aux relations maître-élèves, d'une part, aux relations entre les élèves, d'autre part, aux différentes manifestations de bien-être, le sourire, par exemple, et aux questions d'ordre et de discipline. Alors, une première série d'items se rapporte au maître. Je vous lis le premier en exemple. Le maître se comporte avec bienveillance, sa voix est calme, il est chaleureux, son langage est respectueux, son attitude est confiante, il est souriant. Une seconde série d'items se rapporte, elle, aux élèves. Par exemple, les élèves sourient, ils sont coopératifs, ils manifestent leur intérêt. Ou à l'opposé, plusieurs élèves se disputent, s'agitent, perturbent la classe. Alors pour chacun de ces items, l'enquêteur devait sélectionner une modalité parmi les suivantes. Jamais, rarement, souvent ou très souvent. Alors qu'en est-il de l'engagement ? Comment avons-nous mesuré l'engagement ? Je voudrais tout d'abord préciser que lorsque, dans le cadre de cette recherche, nous parlons d'engagement, nous faisons référence à l'implication des élèves dans les tâches d'apprentissage et à leur participation aux activités de la classe. Nous avons pour cela observé les élèves à travers 4 items qui sont les suivants. Je vous en donne un à titre d'exemple. Fin de la tâche. Lorsque les élèves ont fini la tâche proposée, ils disposent d'une réserve d'autres activités à réaliser. Ils connaissent ces possibilités et ils les mettent en œuvre. À chacun de ces items, l'enquêteur devait sélectionner une réponse en évaluant le nombre d'élèves concernés par cet item. Non, aucun élève. Non, sauf quelques élèves. Oui, la plupart des élèves. Ou oui, tous les élèves étaient occupés. Trois autres items observaient la propension du maître à faciliter cet engagement en ayant, par exemple, une gestion efficace du matériel, en ne perdant pas 10 minutes à distribuer des cahiers, en incitant les élèves à poursuivre la tâche, c'est-à-dire à circuler dans les rangs concrètement, en les encourageant à continuer ou à s'y remettre, et à gérer les transitions. Et là, il s'agissait de sélectionner un indicateur de fréquence, à nouveau, rarement, souvent, toujours. Alors, vous allez maintenant voir un graphique qui illustre la distribution des scores de climat et d'engagement dans les 131 classes de notre échantillon. Alors, en vert, vous voyez les scores de climat et en bleu, vous voyez les scores de l'engagement. Et vous pouvez le voir, dans une certaine mesure, ces deux indicateurs sont liés. Plus le climat est bon, plus les élèves sont engagés. Mais cette liaison n'est pas tout à fait parfaite et certaines classes qui affichent un bon climat peuvent cependant avoir des élèves dont l'engagement n'est pas assuré. Alors, si on prend maintenant la question du climat, donc en vert. Sachant que l'indicateur global construit à partir des items que je vous ai présentés varie potentiellement entre 0 et 3. On constate là que l'ensemble des classes de l'échantillon affiche un bon, voire même un très bon, climat de classe. C'est compréhensible. On conçoit aisément que des enseignants chez qui ça se passe mal en classe, qui ont des difficultés de gestion de classe, par exemple, n'acceptent pas de recevoir un chercheur qui est là 3 semaines dans leur classe et qui les filme, durant 3 semaines. En revanche, l'engagement des élèves apparaît, lui, légèrement plus modéré, mais surtout beaucoup plus varié. Plus le climat est bon, ce qui signifie que certains maîtres parviennent sensiblement mieux que d'autres à enrôler les élèves dans la tâche et à maintenir leur attention. Alors, quel lien entre le climat de la classe et l'engagement des élèves que nous avons pu observer et l'efficacité de ces classes? Alors, nous n'avons pas pu mettre en évidence dans cette étude d'effet du climat. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons trop peu de variété dans le climat. Toutes nos classes avaient un bon climat. Nous n'avons pas de contraste, nous n'avons pas de classe avec un mauvais climat pour contraster. Il est donc assez normal, statistiquement parlant, que cette variable n'exerce pas d'effet. Mais vous vous en souvenez, on avait plus de variété dans l'engagement. Et nous avons constaté un effet positif d'un engagement élevé. Autrement dit, chez les enseignants qui maintiennent un fort taux d'engagement dans leur classe parmi leurs élèves, les élèves, et en particulier les plus faibles d'entre eux, progressent plus que les élèves des classes dans lesquelles l'engagement est moindre. Je vais maintenant céder la parole à ma collègue Céline Piquet qui va évoquer la question de la différenciation.
Alors, comme vient de vous le rappeler Caroline, c'est ces questions un peu pédagogiques qui étaient plus marginales dans notre enquête que les questions consacrées au temps didactique. Pour autant, nous avons essayé d'opérationnaliser, de mesurer, de révéler des pratiques autour de la différenciation parce que... entend parler quand même assez souvent de ces questions de différenciation, que ce soit dans les discours, dans les espées, quand on travaille à la formation des jeunes enseignants, je crois qu'il n'y en a pas un qui passe son concours sans parler de différenciation pédagogique, sans toujours bien savoir ce qu'on y met dedans, mais bon. On en parle d'un point de vue positif, il faut différencier, il faut différencier, il faut différencier. Dans des travaux de recherche, on peut être parfois plus nuancé. Bon, donc, nous avons, malgré le peu de place qu'on a fait à ces dimensions pédagogiques, on a choisi quand même de regarder un petit peu cette question. Nous avons retenu deux formes un peu, qu'on pourrait considérer un peu grossières de différenciation, qui sont les suivantes. Une différenciation par les moyens. Nous avons cherché à révéler la proportion de tâches dans les classes la proportion de tâches identiques pour tous les élèves et ayant donné lieu pour certains élèves à des aides supplémentaires, qu'il s'agisse d'une aide de l'enseignant qui vient travailler à ses côtés ou d'aides plus méthodologiques. Des étiquettes, des choses comme ça. Donc, proportion de tâches identiques avec aide. Et puis, une deuxième forme de différenciation qui passe davantage par les contenus. Et on a cherché à compter la proportion de tâches différentes, la proportion de tâches qui pouvaient être différentes pour certains élèves, différentes de celles du reste du groupe classe. Alors, différentes, ça pouvait être des tâches radicalement différentes. Pour tel élève, il travaille sur une autre activité, même si ça reste du lire-écrire. Différentes, ça pouvait être aussi réduire la longueur. Ça, c'est des choses qu'on voit souvent dans les classes, qu'on peut penser, voir souvent, dans des classes de l'école élémentaire. Donc, voici les définitions un peu brèves de ce que nous avons retenu. Alors, comment ça se distribue dans notre échantillon? Toujours nos graphiques par déciles. En vert, les tâches donc identiques, j'ai oublié le « i », qui ont donné lieu à une aide, et en bleu, les tâches différentes, enfin, la proportion de tâches ayant donné lieu à des tâches différentes. Bon, je crois que la lecture est assez rapide, puisque nous avons en fait observé très peu de différenciation par les contenus. Bon. La grande partie de la différenciation, telle qu'elle est opérationnalisée ici, passe par des aides. C'est un premier résultat. Je passe tout de suite, parce que sinon on va se faire mettre dehors, à la question de l'efficacité. Je vais un petit peu vite. Nous observons des effets positifs d'une proportion de tâches identiques avec de l'aide, donc des effets positifs seulement auprès des élèves les plus faibles en début d'année. Alors, autrement dit, les élèves les plus faibles en début d'année progressent davantage que les plus faibles, que les autres plus faibles en début d'année, progressent davantage lorsque leur enseignant a une tendance élevée à proposer des tâches identiques, mais avec de l'aide. Les effets des tâches différentes de la différenciation par le contenu, en fait, est à prendre avec prudence, non seulement parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Dans nos calculs statistiques, on a une tendance avec des effets négatifs, mais comme il y en a très peu, en fait, on atteint là les limites d'un raisonnement toutes choses égales par ailleurs. On souhaiterait aller plus loin dans les analyses. Je m'arrête, j'ai vu. Je finis ma phrase. Alors, nous évoquions donc les pratiques de différenciation, qu'il s'agisse de la différenciation par les moyens ou par les contenus. Et j'en étais arrivée à évoquer le résultat suivant, qui consiste à dire que, en particulier les élèves les plus faibles, auraient tendance à mieux progresser avec des enseignants qui affichent une propension élevée à différencier par les moyens, c'est-à-dire à l'aide en proposant des tâches identiques dans les classes pour tous les élèves, mais avec des aides supplémentaires plutôt que des tâches différentes. J'en étais arrivée au point particulier des tâches différentes, donc une différenciation par les contenus, où en fait on souhaite à ce stade de l'étude être assez prudent sur les résultats, puisque vous avez vu dans les diapos précédentes que c'est très peu mis en œuvre. Et une hypothèse qu'on pourrait avoir serait qu'en fait ce type de différenciation, donc très particulier, très rare, à examiner avec prudence, serait mise en œuvre avec également des élèves très particuliers. Et je disais qu'on atteint là les limites de nos procédés statistiques qui consistent à raisonner toutes choses égales par ailleurs, puisque quand même les élèves ne sont pas toujours égaux par ailleurs. Donc autant le premier résultat peut être assez crédible, pour le second on va rester un peu plus nuancé. Alors, ce que Caroline ou moi-même vous avons présenté est assez cohérent avec les travaux antérieurs. Alors, il faut nuancer, tout ce qui concerne l'engagement et le climat, oui, ce n'est pas une nouveauté. Caroline l'a dit, notre objectif était plutôt de contrôler un petit peu notre discours. En revanche, sur la différenciation, on a quand même peu de choses en France. Peu de preuves empiriques, peu d'arguments empiriques sur les effets d'une pédagogie différenciée. Donc, sur ces aspects-là, enfin, en particulier la différenciation, au-delà d'une approche purement statistique, vraiment notre souhait est d'aller voir dans les vidéos pour examiner un peu mieux comment se construisent les gestes professionnels dans ces dimensions. On souligne également que quand même si c'est pas un résultat nouveau que de dire que la capacité des enseignants à maintenir les élèves dans le travail est un élément fondamental, enfin, est un élément qui participe de l'efficacité de leur travail, c'est quand même un élément fondamental. On l'a pas mesuré ici de la même façon que dans les travaux classiques sur le temps d'engagement. On le mesure de façon un peu plus distanciée, pas directement auprès des élèves, mais vraiment on observe dans nos données un effet très fort de cette dimension. Alors je vais me permettre une toute petite chose qui n'était pas prévue, puisque j'ai été interrompue, je m'autorise ce que je veux. Alors, tu veux te rapprocher ? Pas toute seule. On souhaiterait prendre la parole au nom de toute l'équipe pour adresser nos remerciements à Roland Guago. Parce qu'il remercie toujours tout le monde, mais personne ne le remercie jamais. Donc, on peut faire une. Oh, c'est cool. Oh, c'est presque émouvant. Ouais. Remercier Roland qui a su donc nous réunir là, une soixantaine d'enseignants-chercheurs, bon, nous réunir mais surtout nous faire travailler ensemble, non pas que nous soyons particulièrement paresseux, mais nous sommes surtout tous très différents et cette différence nous a quand même posé des difficultés au début de la recherche. On ne se connaissait pas, on ne travaillait pas de la même façon, on avait des horizons vraiment différents, en particulier du point de vue méthodologique et statistique, c'est bon. Et finalement, voilà, on voulait le remercier de nous avoir donné cette occasion de nous rencontrer, de travailler ensemble, voire même de le féliciter par sa ténacité, sa diplomatie, sa pédagogie, qui a permis de faire de nos différences une richesse et de produire un travail vraiment collectif. J'espère que la journée vous en a donné la preuve. Cohérent et, nous l'espérons, utile. Voilà. Merci.